Il était une fois, Yem c'est qui c'est quoi? Il était une fois,
c'est toi c'est moi.
Yem c'est toi c'est moi.
Yem c'est qui c'est quoi?
Yem c'est qui c'est quoi?
Yem c'est toi et moi.
Yem est né un jour de grand beau. Ça fait qu'on ne pouvait pas le manquer. Yem est arrivé comme une boule d'énergie, toute couleur au tout possible, à qui à peine né, tout réussissait déjà. Né à l'aurore, caressé par ses doigts roses, le jour même, dans la matinée, Yem aimait bien savoir marcher. À midi, Yem aimait bien tourner ses babilles en verbe et savait parler. Yem avait dans la bouche toutes les langues du monde, celles qui avaient été, celles qui étaient et celles qui viendraient. Yem aimait bien aussi chanter, et de sa gorge d'enfant, on entendait toutes les voix de la terre s'élever. Et si pour nous tous, parler au vent, à la pluie, aux fées, n'était pas chose facile, voire incertaine ou impossible, dès le premier soir, Yem savait voyeliser et se faire entendre de tous les éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu venaient murmurer dans son cœur. S'il faisait trop froid, Yem adoucissait le vent en sifflotant, faisait d'une bourrasque un zéphyr. À la fin de la journée, Yem avait 7 ans. 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 7 jours de la semaine, indivisibles, ces 7 années lui faisaient tout un socle de possibilités. Il aimait tous les règnes du vivant, ceux qui marchent debout sur 2 jambes, comme ceux qui volent, qui trottent, galopent, nagent, volent. Un jour, tout à coup, il a fait noir. Mais noir, une nuit complète. Pas de chance, parce qu'avec le temps, la nuit est devenue continue. L'obscurité faisait mal au corps, à l'âme, au cœur. Oh, Yem ne pouvait pas vivre sans la lumière. Yem cherchait comment retrouver la clarté, partout, désespéré, se cognant. Un matin, Yem entend le froufrou libre et joyeux, des ailes d'un oiseau gros comme une mouche, un colibri. C'est là que l'idée surgit. Les êtres qui volent sentent et savent bien plus facilement ce que les hommes ignorent. Être un oiseau. Alors, de tous les oiseaux, Yem a choisi le plus courageux, le plus persévérant, habile et un peu magicien. Yem s'est emmorphosé en corbeau, et s'est donné des ailes pour découvrir d'où venait cette nuit d'encre. Seulement, Yem découvrait sa nouvelle nature et se cognait à nouveau partout, dans les arbres, les renards, les cerfs, les rochers, par terre en se posant, même dans le ciel. Une fois, Yem se cogne encore, c'est quelque chose de plat, de grand. Avec ses doigts plumés, ses yeux doigts, Yem tâte, tâtonne. C'est l'esplat. Devant, en bas, même chose sur le côté. À gauche, à droite aussi. Pour en avoir le cœur net, Yem s'envole et se pose sur le dessus. C'est plat comme une boîte. Fait tout le tour, cherche un trou, une porte, une fenêtre. Rien. En cherchant, Yem Corbeau entend des voix. Une femme, un homme. Ça vient de l'intérieur de la boîte, c'est certain. Le silence revient, une porte claque. Dans l'obscurité, des pas s'éloignent en direction des bruits d'eau. Ah oui, la rivière. De loin, Yem Corbeau entend chanter. La femme. Puis les petits pas reviennent, le son de l'eau clapote dans les poteries et la porte claque à nouveau. Le silence revient. La curiosité balaie l'inquiétude qui s'envole. Yem oublie de manger, attend, dort sur le dessus de la boîte. Et dans une certaine mesure de temps, chaque jour, le même événement se produit. La porte claque, les petits pas, la rivière, la chanson, l'eau dans les jarres et le tintement des feuilles dans le vent. Un jour, alors que la femme est partie chercher de l'eau, tout d'un coup, Yem voit comme un rayon de lumière qui perce l'obscurité, si petit, si brillant, qu'Yem Corbeau discerne enfin l'extrémité de ses pattes, ses griffes d'oiseau. Oh, la lumière est là, cachée à l'intérieur. L'obscurité ravale le trait d'or. Mais pour Yem Corbeau, reste une seule idée dans sa tête, s'introduire à l'intérieur et libérer la lumière. Justement, le chant de la femme s'élève depuis la rivière. Alors Yem Corbeau s'envole, s'installe silencieusement à côté d'elle. Quand elle termine de remplir les deux jarres qui font le ravitaillement, Yem, en présence oiseau, entend le sifflement d'une poterie frottée sur le daim. La femme sort une petite coupelle de sa jupe en peau, la fait glisser le long du cuir et se taille ensuite une portion d'eau dans la rivière qu'elle boit, puis une seconde portion d'eau qu'elle boit. Et quand elle le fait pour la troisième fois, Yem Corbeau s'envole au-dessus d'elle, s'emmorphose à nouveau en quelque chose de si petit, petit, la plus petite parcelle d'Yem même. Le plus petit fragment qui compose une plume, une simple barbule, et se laisse choir dans la coupelle. La femme boit, la barbule glisse dans son corps, tout au fond de son ventre, dans cette partie qui fait comme un nid au petit homme. La femme rentre et ne s'est rendue compte de rien. Pourtant, rapidement, quelque chose se met à changer. Le corps s'alourdit, devient maison. Elle devient ronde, comme les poteries avec lesquelles elle apporte l'eau de la rivière. Elle n'a plus de mère pour l'accompagner, et son homme dans l'obscurité, lui, n'a pas vu les changements. Il en est ainsi parfois dans les contes. Chacun vit de son côté, de la maison de bois, et au bout de quelques mois, Yem Corbeau est là. Elle, car c'est dans le corps d'une petite fille qu'Yem Corbeau bébé revient. Elle est belle pour le cœur de sa mère et aussi pour l'âme de son père, qui retrouve instantanément les gestes de sa propre mère, bienveillante, douce, et fredonne ces berceuses que les hommes font pour leurs enfants. Yem Corbeau bébé-fille est ronde, potelée, dans leurs bras tous les deux. Et s'il avait fait clair, on aurait pu voir son regard pétillant et noir comme celui d'un corbeau. On aurait pu voir aussi le petit duvet sombre qu'elle avait dans le bas du dos, comme de minuscules petites plumes. Son nez proéminent comme un bec, son aisance pareille à celle de Yem. Mais dans cet endroit du monde, personne n'avait encore entendu parler de Yem. La petite a grandi. Elle passait des bras de sa mère à ceux de son père. Sa mère la nourrissait, réinventant les gestes de sa propre mère, et son père chantait pour elle. Elle a rampé, marché à quatre pattes, gazouillé, puis marché sur ses deux jambes de petite femme et parlé. Dada, dada, raconte-moi une histoire. Et le père contait, chantait, jouait avec l'enfant. Un jour, l'enfant explorait tous les objets de la maison. Elle a découvert une grande boîte. Ne sachant pas à quoi elle servait, elle a interrogé son père. Dada, dada, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Dis-moi. Ne t'occupe « pas de ça, ça ne te regarde pas !» lui a dit son père, soudain de mauvaise humeur. L'homme avait une voix dure, Surprise, l'enfant est devenue silencieuse en attendant une autre occasion. Quelques jours plus tard, elle avait repris ses explorations. Ses petits pieds, ses petits doigts ont retrouvé la grande boîte. « Dada, Dada, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Dis-moi, dis-moi !» Le père restait silencieux, froid. Mais vous savez comment sont les enfants. La question était comme une rivière. Or, rien ne résiste à l'eau. L'homme s'est habitué à la question. Il a même fini par en sourire, puis par l'attendre. « Dada, Dada, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans cette grande boîte. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans cette grande boîte. » Ce jour-là, quand la question est revenue, la maman était allée chercher de l'eau. Alors, pour honorer la curiosité de sa fille, le père a pris l'enfant par la main ensemble. Ils ont fait quelques pas jusqu'à la grande boîte et il a soulevé le couvercle. Il l'a posé au sol, puis il a dirigé les mains de l'enfant vers la boîte, dans la boîte. L'enfant avait retenu son souffle quand elle a touché le bois strié de la boîte dans la boîte, dans un océan d'excitation. « Dada, dada, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là ?»« Rien, » a dit le père. « Allons chanter. » Ils ont ri, chanté, et dès le lendemain, le jeu des questions et des demandes a recommencé. « Dada, dada, la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Le père a repris sa fille par la main pour marcher jusqu'à la grande boîte. Il a soulevé le couvercle et il a sorti la deuxième boîte. Oh, l'enfant a ri de plaisir et de surprise. Le père a ri aussi. « Dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Allez, dis-moi !» Le père a soulevé le couvercle et il y avait une autre boîte. Ses flancs étaient tous sculptés. Les doigts de l'enfant ont à peine eu le temps de sentir ses ronds, les bosses, les déliés des silhouettes sur les parois de la boîte que déjà l'homme rempilait la boîte dans la boîte de la boîte. À partir de ce jour, le jeu des bonnes transmissions entre générations a déployé sa trajectoire de rire et de partage. Les chants, les contes, le façonnage des objets de bois, le temps partagé, le jeu des questions dévidaient la bobine de l'apprentissage et de la connaissance pour Yem Corbeau, petite fille, et son père. Il en était ainsi dans les contes. Chaque fois que la maman allait à la rivière, le père et la fille s'en allaient tranquillement dans le coin où était rangée la grande boîte. Le père soulevait le couvercle, la posait au sol, puis soulevait une boîte, puis sortait une boîte de la boîte, puis encore l'autre boîte dans la boîte, puis la boîte de la boîte dans la boîte, de la boîte de la boîte dans la boîte. Et il riait. Il riait et rangeait tout dès que le chant de la jeune mère se rapprochait. Un jour, ils sont arrivés à des boîtes toutes petites, si petites que la dernière découverte était grosse comme l'ongle d'un pouce. « Dada, dada, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?» Le père, emporté par le jeu, a entrouvert le couvercle de la minuscule boîte, à peine entrebâillée. Un éclat de lumière a cisaillé la noirceur. Aveuglé, l'homme a tout lâché et puis la lumière a rempli tout l'espace. L'enfant qui n'était autre que Yem Corbeau, petite fille, a bondi, bouche, bec ouvert, sur la boîte, l'a tout attrapé. La lumière, la minuscule boîte, libre, farouche. Yem Corbeau, petite fille, a retrouvé la vigueur de ses 7 ans, s'est réamorphosée en Yem Corbeau, a foncé vers le foyer, s'est élancée dans le trou à fumée et au dehors, a poursuivi son vol puissant. Comme une flèche lancée vers le ciel, Yem Corbeau s'est élevé dans le ciel, tellement haut. A senti ses ailes devenir transparentes, son corps trop lourd, jusqu'à ce que Yem pue assez d'air pour respirer. Alors, découvert toute la lumière du monde, s'est déplié, s'est étalé, élargi, a agrandi l'horizon dans toutes les directions, laissant d'un côté les étoiles se répandre, la lune s'envoler, et de l'autre, l'astre du jour est monté, 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 brillant. Il a rempli le ciel, laissant ses rayons caresser tout ce qui existe. Alors, toute la beauté du monde est réapparue. Chaque être a retrouvé son apparence singulière et tout ce qui vit a recommencé à circuler librement. Les femmes, les enfants, les hommes, tout ce qui rampe, qui grouille, marche, trotte, galope, vole, nage, a retrouvé sa liberté et son allant. Yem, qu'aime tant ça, être là, tout comme la lumière. Yem s'est réamorphosé en Yem, tout simplement.
Il était une fois, Yem, il était une fois, Yem, c'est qui c'est foi. Il était une fois,
c'est toi, c'est moi.
Yem,
c'est toi, c'est moi.
Il était une fois. Yem, c'est qui c'est foi.
Yem, c'est toi et moi.
Yem, c'est toi et moi.